Bienvenue à ceux qui sont là. Évidemment, c'est dans des conditions un peu spéciales. Mon cours s'intitule de la physique statistique aux sciences sociales et j'ai choisi de focaliser mes trois premiers cours sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont un exemple particulièrement bien documenté de l'activité d'agents en interaction, puisqu'on dispose maintenant de données extrêmement précises de chaque transaction, même de chaque intention de transaction dans le carnet d'ordre. Et depuis plus longtemps, on dispose de séries de prix depuis des décennies, voire des siècles, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc pour moi, les marchés financiers constituent une espèce de laboratoire idéal où les phénomènes d'interaction, de rétroaction et de crise peuvent être étudiés. Donc c'est une coordination qui peut être vertueuse ou malheureuse. Et l'idée, c'est d'essayer d'en déduire des concepts plus généraux pour l'économie et les sciences sociales. Donc mon premier cours s'intitule « Modélisation des séries financières, une longue histoire », puisque en fait on attribue souvent le démarrage de la théorie des processus stochastiques à la thèse de Louis Bachelier, Louis-Jean-Baptiste Alphonse Bachelier, né en 1870, et qui donc soutient sa thèse encadrée par Henri Poincaré, je pense encadrée de façon assez formelle en fait, en 1900. Donc il a 30 ans. Et avant de reprendre ses études, il a dû travailler dû au décès de son père. Et je pense, enfin plusieurs personnes pensent, qu'il a effectivement interagi avec les marchés financiers avant d'en concevoir sa thèse, qui s'appelle donc « Théorie de la spéculation ». Et cette thèse est tout à fait remarquable, puisqu'il invente le mouvement brownien comme processus stochastique 5 ans avant Einstein. Il démontre plusieurs propriétés originales du mouvement brownien. Et il obtient une formule de valorisation des options 72 ans avant Black-Scholes. Alors c'est une théorie partielle des options, mais il a une formule qu'il compare avec des données empiriques de l'époque. J'y reviendrai. Donc, la première page de sa thèse, l'introduction, les premières lignes, les influences qui déterminent les mouvements de la bourse sont innombrables, des événements passés, actuels ou même escomptables, ne représentant souvent aucun rapport apparent avec ces variations se répercute sur son cours. Et un peu plus loin, il dit « Il semble que le marché, c'est-à-dire l'ensemble des spéculateurs, ne doit croire à un instant donné ni à la hausse ni à la baisse, puisque pour chaque cours coté, il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. » Donc en quelques lignes, il trace en fait un thème de recherche qui va se développer tout au long du XXe siècle et même du XXIe siècle. Les mouvements de prix sont imprévisibles, puisque les spéculateurs pensent tout autant que le prix peut monter ou baisser, donc ils sont aléatoires dans un certain sens, évidemment à préciser, mais dans l'idée de Bachelier, c'est que les mouvements de prix sont des variables indépendantes, qu'on ne peut pas prévoir. Et son idée, justement, comme elles sont imprévisibles, c'est que les marchés sont statistiquement efficients, terme qui apparaîtra plus tard, bien sûr, donc on ne peut pas trouver des stratégies qui gagnent de l'argent de façon systématique. Mais dans cette phrase que j'ai entourée en orange, il y a déjà cette idée qui me semble extrêmement importante et que je développerai au cours de 2, qui est qu'on peut tout à fait avoir des prix qui forment une marche aléatoire, qui sont donc imprévisibles, sans que ces prix ne reflètent forcément la valeur dite fondamentale d'un actif. On pourrait très bien imaginer effectivement que des événements qui n'ont aucun rapport avec la valeur fondamentale puissent induire les spéculateurs, comme les appelle Bachelier, à acheter, vendre, impacter les prix et les faire monter ou baisser de façon totalement aléatoire. J'y reviendrai au cours 2 et 3. Donc quand on lit le rapport de soutenance de Henri Poincaré, il dit « La manière dont M. Bachelier tire la loi de Gauss est fort originale. C'est en effet une comparaison avec la théorie analytique de la propagation de la chaleur que l'auteur a eu recours. » Et en effet, effectivement, Bachelier explique comment obtenir le mouvement brownien à partir d'une équation de diffusion des probabilités, comme il les appelle, qui est l'analogue de l'équation de la chaleur. Et Henri Poincaré dit « On ne peut regretter que M. Bachelier n'ait pas développé davantage cette partie dans sa thèse. » Thèse qui est publiée aux annales de l'École normale supérieure, donc tout de même un certain succès. Malheureusement, la carrière de Bachelier sera plus que médiocre, et il attendra très longtemps avant d'avoir un poste définitif à l'université. Donc ce que j'ai représenté en haut à droite, c'est donc un mouvement brownien construit numériquement. Et ce qu'on voit, en particulier, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est les propriétés d'invariance d'échelle de ce mouvement brownien. Invariance d'échelle qui sera un thème majeur de plusieurs développements ultérieurs de la théorie des marchés financiers, mais de bien d'autres phénomènes naturels ou artificiels. Donc effectivement, on voit que, quelle que soit l'échelle à laquelle on regarde le processus, on voit toujours statistiquement la même chose, quitte à faire un changement d'échelle sur l'axe des Y, qui est la racine du changement d'échelle qu'on effectue sur l'axe des X. Donc, comme je le disais, Bachelier utilise un argument de théorème de la limite centrale pour construire le mouvement brownien. Et finalement, à part une petite modification qui est que le prix dans le modèle de Bachelier est une variable additive, c'est-à-dire que le prix peut en principe devenir négatif dans le modèle de Bachelier, mais il dit avec une probabilité tellement faible que ce n'est pas très important. Mais plus tard, on considérera qu'un meilleur modèle est de prendre pour le prix l'exponentielle du mouvement brownien, qui conduira donc au modèle de Black-Scholes de valorisation des options en 1973, avec en plus d'une formule donnant le prix de ces options, on a le concept très important de stratégie de couverture et de risque nul, puisque dans le cadre du mouvement brownien, on peut couvrir les options qu'on émet, les assurances sur des actifs financiers, de telle manière que l'émetteur de ces options subisse un risque zéro. Alors c'est tout à fait bizarre, mais c'est une propriété du mouvement brownien, propriété d'un hasard décrit par le mouvement brownien que Mandelbrot plus tard appellera un hasard bénin. Alors, je voudrais juste dire deux mots sur le fait que la finance a inspiré tout un tas de développements mathématiques très intéressants, dont je parlerai tout au long de ce cours. Mais curieusement, il y a encore de beaux esprits pour penser que la finance, on ne devrait pas s'y intéresser en tant que scientifique. Et je voudrais juste rappeler, même si c'est enfoncer des portes ouvertes, que la théorie des jeux d'argent, mais aussi des considérations militaires, de guerre, ont inspiré des très belles œuvres mathématiques. Donc là, j'ai reproduit la couverture du livre d'Abraham de Moivre, La théorie des chances, Doctrine of Chances, et le mémoire sur la théorie des déblais et des remblais de Gaspard Monge, qui a conduit à toute la théorie du transport optimal, qui, bien entendu, est très actuelle et tout à fait magnifique. Donc, pour revenir à Bachelier, donc ce que j'ai représenté en haut, c'est donc à gauche le mouvement de Bachelier avec un biais vers le haut qui permet de prendre en compte le fait qu'en moyenne, les cours de la bourse ont tendance à monter. Et à droite, une représentation de l'indice américain Dow Jones depuis 1900 jusqu'à 2000. Et à l'œil, effectivement, on a l'impression que l'idée de Bachelier n'est pas forcément si mauvaise. Si on regarde un tout petit peu plus précisément, on voit tout de même qu'il y a deux événements au cours du XXe siècle, en 1929 et en 1987, qui, même à l'œil nu, apparaissent, qui apparaissent comme des espèces de discontinuités, qui sont donc des cracks, de l'ordre de 20% de variation en une seule journée, qui n'existent pas dans un mouvement brownien qui est à la propriété d'être continu. Mais une des observations empiriques très anciennes, en fait, qui date même d'avant Bachelier, même s'il n'avait pas été formalisé, Jules Regnault, en 1863, dit « L'écart pris sur un grand nombre d'opérations est en raison directe de la racine carrée du temps. » Et donc, il dit qu'effectivement, pour un mouvement brownien, que ce soit le prix pour Bachelier ou le log du prix plus tard, la variance de la variation du log du prix entre deux instants séparés d'une distance petit t, d'une distance temporelle t, croît linéairement en temps, donc en sigma carré fois le temps, où sigma est appelé la volatilité du cours. Alors il se trouve qu'effectivement, si on teste cette prédiction de Bachelier, disons, sur des données financières, ça marche très bien. En tout cas, à nouveau à l'œil, quand on représente sur le graphe en bas à droite le log du ce qu'on appelle le variogramme, donc la variance des variations de prix, ou du log du prix en fonction du log du temps, on voit une pente 1, ce qui veut dire effectivement que cette loi de la diffusion est bien suivie. Donc les points que vous voyez sont des points qui correspondent à des données journalières. Donc le premier point correspond à une seule journée, t égale une journée. On est en log en base 10 sur l'axe des x, donc 2 correspond à 100 jours et 3 à 1000 jours, donc à peu près 4 ans boursiers. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que les points s'alignent très bien sur une droite. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure façon de regarder les données, on y reviendra plus tard. Si on regarde un peu plus attentivement, on verra des variations systématiques par rapport à ce qu'on pourrait appeler la loi de Bachelier ou la loi de Regnault, comme on veut, qui montrent effectivement des anomalies à cette loi de diffusion pure, anomalies qui sont nombreuses et sur lesquelles je vais m'attarder maintenant. Donc, j'ai représenté sur les deux graphes du haut le prix de deux manières différentes. Donc la courbe du haut, c'est la chronique des prix en fonction du temps, la trajectoire des prix. Et le graphe du bas, c'est la variation des prix d'un jour sur l'autre ou d'un pas de temps sur l'autre. Et ce que vous voyez, c'est donc que le mouvement de Bachelier ou la marche aléatoire d'Einstein conduit à des variations de prix extrêmement régulières. Donc l'enveloppe, c'est la volatilité, et on ne voit pas de saut, on ne voit pas de pic, on ne voit pas de modulation de l'épaisseur de cette enveloppe. Alors que si on regarde des cours réels, et ici j'ai pris l'indice boursier anglais, le FTSE, on voit des choses très différentes. Alors comme je disais tout à l'heure, si on regarde la chronique des prix, on a l'impression que le mouvement aléatoire de Bachelier représente pas trop mal ce qui se passe en première approximation, mais si on fait une dérivée discrète de ces prix, on voit à nouveau à l'œil nu des différences majeures. On voit qu'il y a des pics qui correspondent à des variations de prix importantes. Je l'ai signalé tout à l'heure dans deux exemples extrêmes qui étaient le crack de 29 et celui de 87. Ici, on voit effectivement que des sauts de prix apparaissent de façon régulière dans les variations de prix. Et d'autre part, on voit que l'enveloppe de la courbe n'est pas du tout constante dans le temps, mais donc la volatilité des cours elle-même varie dans le temps et varie de façon non triviale. On a des périodes de haute volatilité et des périodes de basse volatilité qui durent relativement longtemps et d'autres qui durent relativement peu longtemps. Donc on a une dynamique de la volatilité elle-même qui est particulièrement complexe. Sur le graphe en bas à droite, j'ai représenté la valeur absolue de la variation des prix de l'indice américain au XXe siècle, et on voit effectivement cette succession de périodes très agitées. On voit un gros pic dans les années 30, après le crack de 29, et puis une période relativement calme dans les années 60, etc. Et quand on zoome sur une période de 10 ans, une période d'un an, voire une période d'une seule journée, on voit toujours ce même type de ce qu'on appelle d'intermittence, en fait, de succession de périodes très calmes et de périodes très agitées. Et donc cet aspect des cours financiers avait été noté dès 1963 par Benoît Mandelbrot, où il avait dit « Large changes tend to be followed by large changes of either sign and small changes tend to be followed by small changes. » Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'intermittence, de volatilité intermittente. Et dans ce papier de 63, Mandelbrot avait aussi noté l'existence de sauts, d'une distribution extrêmement large de la variation des prix d'un jour sur l'autre, décrit par une loi de puissance, et il avait proposé un modèle dont je vais parler dans une minute. Mais ce qui est très intéressant dans l'article de Mandelbrot et qui se confirme ensuite, c'est que ces anomalies par rapport au mouvement brownien sont tout à fait universelles et ne dépendent pas de l'actif financier considéré. Alors en réalité, ce qui est tout à fait remarquable, je trouve, par rapport à la thèse de Bachelier dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que Bachelier ne s'est pas contenté de faire la théorie du mouvement brownien, de valoriser les options avec une formule qui est donc très proche de celle de Black-Scholes avec 72 ans d'avance, mais il avait aussi pris la peine de comparer sa théorie à des données empiriques, et ça montre bien qu'il avait une connaissance, à mon avis, très intime des marchés financiers. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une comparaison entre des prix d'options, alors contrats à prime comme on les appelait à l'époque, mais ce sont essentiellement des options, avec des maturités différentes, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 45 jours. Et donc dans la colonne de gauche, il montre le résultat de sa théorie, et dans la colonne de droite, il montre des prix de marché. Et ce que vous voyez, c'est que les prix de marché ont tendance à être supérieurs aux prix théoriques, d'une part, mais en plus, cette différence tend à s'atténuer avec la maturité des options. Donc plus on va loin dans le temps, et plus l'approximation gaussienne de Bachelier a l'air d'être vérifiée. Et c'est bien sûr ce qu'on voit de nos jours. J'ai représenté en bas à droite ce qu'on appelle le smile de volatilité. Sans rentrer dans les détails, on voit si la théorie gaussienne était correcte, on verrait rien, on verrait quelque chose de totalement plat. Ici, on voit une forme très déformée à maturité courte et qui s'aplatit au fur et à mesure que la maturité augmente. Et donc, on a cette idée de restauration de la gaussienne à temps long qu'on voit effectivement, qu'on voyait à l'époque et qu'on voit toujours maintenant. À nouveau, j'y reviendrai. Donc, comme je le disais, Mandelbrot, en 63, constate l'intermittence de la volatilité et la présence de sauts dont la distribution est clairement non gaussienne, avec des queues épaisses, et propose donc, au cours de sa carrière, Mandelbrot propose plusieurs modèles pour décrire les marchés financiers. Donc le premier, qui date de 1963, est celui des processus dits de Lévy stable. Donc Paul Lévy généralise le théorème d'Alvin central au cas de variables aléatoires dont le second moment est formellement divergent, ce qui conduit à un type de marche aléatoire très différente de la marche gaussienne. Et donc j'en ai représenté un exemple sur le graphe en haut à droite. Et donc ce qu'on voit ici, c'est effectivement la présence de sauts qui pourraient correspondre à ces cracks boursiers dont on parlait tout à l'heure. Donc en bleu, c'est la trajectoire des prix. En noir, c'est à nouveau la dérivée discrète de ce processus. Et là, ce que vous voyez, c'est finalement quelque chose qui, en effet, a des sauts, mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit en pratique sur le graphe de gauche. On voit que les sauts sont beaucoup trop importants, puisque pour que le dessin soit à l'échelle du plus grand saut, les mouvements « normaux » entre guillemets sont totalement écrasés, alors que pour des données réelles, ce n'est pas le cas. On voit effectivement des sauts importants, mais on voit le cœur de la distribution, en quelque sorte. Et d'autre part, pour ce processus Lévy stable, puisqu'on a des variables qui sont totalement indépendantes, elles ont juste le défaut, entre guillemets, de ne pas avoir de second moment, on n'a pas cette dynamique temporelle de la volatilité caractéristique des marchés financiers. Mais donc en 63, c'est le modèle proposé par Mandelbrot, sur lequel il reviendra plus tard, en essayant justement de construire des modèles où la volatilité elle-même est intermittente, et on le verra à mémoire longue, et ça conduira à ce qu'on appelle les modèles multifractales, qui sont des modèles qui finalement ont des applications bien au-delà de la finance, et donc on voit à nouveau l'importance de s'intéresser à un sujet donné pour développer des outils mathématiques qui, in fine, s'appliqueront dans beaucoup d'autres domaines. Alors effectivement, quand on regarde les données financières, quelque chose qui avait frappé Mandelbrot à une époque, et finalement, pendant quelques années, il s'était désintéressé des marchés financiers pour s'intéresser à d'autres problèmes de physique, c'est ce qu'on observe dans les écoulements turbulents. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un enregistrement de la vitesse locale dans un fluide qui est en écoulement turbulent au cours du temps. Et ce qu'on voit est à l'œil à nouveau extrêmement frappant, puisqu'on reconnaît la même phénoménologie que celle qu'on observe dans les marchés financiers. Alors, pourquoi ? Je pense que personne n'a la réponse encore à l'heure actuelle. Dans le cas de la turbulence, on a un fluide qu'on excite à très grande échelle, et via des non-linéarités, cette excitation très régulière à grande échelle cascade et fait apparaître une dynamique extrêmement complexe via les non-linéarités à petite échelle. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de cette analogie pour construire des modèles micro-fondés, disons, des marchés financiers? La question est ouverte et à nouveau, j'en reparlerai plus tard. Mais donc, ce qu'on observe en turbulence comme dans les marchés financiers, c'est que on a des fluctuations à toutes les échelles de temps, à toutes les échelles d'espace en turbulence, qui se transcrivent par des échelles de temps si on regarde en un point donné, et à toutes les échelles de temps dans les marchés financiers. Et donc cette observation et un développement mathématique dû à Mandelbrot en 1974 conduit à l'apparition donc, de ces modèles dits multifractales. Donc j'ai cité un certain nombre d'articles fondateurs, dont celui de Mandelbrot en 1974, sur la turbulence. Donc, c'est un article publié dans le Journal of Fluids, of Fluid Mechanics peut-être. Ensuite, il y a un article très fameux de Frisch et Parisi, donc sur la turbulence toujours et l'intermittence. Et puis plus tard, donc Mandelbrot en 1997 revient sur ses premiers amours de finance, si on veut, et introduit donc avec Calvet et Fischer un modèle multifractal de variation de prix qui est ensuite développé par Musy, Delour et Bacri en 2000 pour en donner une version finalement beaucoup plus adaptée au marché financier. Et ce que j'ai représenté donc, sur le graphe en haut à droite, c'est une simulation d'une marche aléatoire multifractale, Multifractal Random Walk, MRW, comme suggéré par Musy, Delour et Bacri. Et ce que vous voyez, c'est que la représentation en prix, en trajectoire ou en variation de prix, surtout, se met à beaucoup ressembler aux données empiriques, puisqu'on a maintenant des sauts qui sont commensurables avec le reste de l'image, mais aussi des paquets de volatilité, en quelque sorte, qui ont des tailles différentes. Vous voyez qu'à certains moments, la volatilité reste haute pendant relativement longtemps, à d'autres, elle s'excite puis redécroît très rapidement. Et donc, on a effectivement un processus de volatilité qui est dit à mémoire longue, sans échelle de temps caractéristique, qui est réellement une des caractéristiques qu'on voudrait attraper dans tout modèle réaliste des marchés financiers. Alors on verra que ce n'est pas la fin de l'histoire, que plus on creuse, plus on cherche à décrire précisément les fluctuations de prix des marchés financiers, et plus on découvre des faits stylisés qui ne collent pas avec les modèles proposés, en particulier celui de le modèle multifractal, qui pourtant, avec très peu de paramètres, arrive à reproduire la phénoménologie de ces marchés financiers. Alors, de façon un petit peu différente, pour des sujets de nature différente, Mandelbrot en 67 s'intéresse à d'autres types de processus stochastiques, donc à une généralisation du mouvement brownien, qu'il appelle mouvement brownien fractionnaire, où on essaie de décrire des mouvements browniens généralisés qui ont à la fois cette propriété d'invariance d'échelle, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'être invariant quand on change l'échelle à laquelle on les regarde, modulo un changement de l'axe des X et de l'axe des Y adapté, mais dont la loi de Bachelier est modifiée pour avoir une variance des variations de prix, si on y pense en termes de prix, qui n'augmente pas comme le temps à la puissance 1, linéairement en temps, mais comme le temps à une puissance 2H, où H est appelé l'exposant de Hurst, ou la régularité de Holder du processus. Donc si H égale 1,5, c'est le mouvement brownien dont j'ai parlé, qui correspond à des incréments décorrélés d'un pas sur l'autre. Si H est supérieur à 1,5, on en voit un exemple en haut à gauche, on a un brownien dit persistant, c'est-à-dire que les variations de prix ont tendance à être autocorrélées de manière positive, et ça conduit pour la trajectoire des prix, prix fictif ici, a des trajectoires beaucoup plus régulières, beaucoup plus lisses que ce qu'on observe pour le mouvement brownien. Donc ce que vous voyez à nouveau, c'est en haut la trajectoire, en bas cette dérivée discrète de la trajectoire. Donc pour h égale 0,75, on a un processus qui est beaucoup moins haché, beaucoup moins irrégulier que le mouvement brownien, tout en restant aléatoire, mais avec donc ce qu'on appelle en finance des tendances qui cette fois sont réelles. Quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, on peut prédire ce qui va se passer dans l'avenir, puisqu'il y a une persistance des mouvements à la hausse ou à la baisse dans ces processus pour les valeurs de H qui sont supérieures à 1,5. En revanche, si H est inférieur à 1,5, on est dans le cas d'un brownien dit anti-persistant, c'est-à-dire qu'au contraire, chaque mouvement de prix vers le haut a tendance à être plutôt suivi d'un mouvement de prix vers le bas, si on y pense en termes de prix. Donc c'est souvent ce qu'on appelle la mean reversion en anglais, et on construit un processus stochastique beaucoup plus haché, beaucoup plus rugueux, qu'on voit donc en haut à droite. Si H tend vers 0, qui est une limite possible, qui est un petit peu délicate du point de vue mathématique, mais qui est une limite possible, on a ce qu'on appelle justement la limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure, pour la volatilité, non pas pour le prix. Évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en première approximation, quand on regarde le prix lui-même, la loi de Bachelier, donc avec H égale 1,5, est très bien vérifiée. Il est très difficile de prédire les mouvements de prix futurs, ça se saurait, mais on peut considérer ces mouvements browniens fractionnaires pour d'autres applications, et en particulier on verra que si on pense à la volatilité comme un processus stochastique, l'idée de le décrire comme un brownien fractionnaire avec un H très petit, voire peut-être nul, a tout à fait du sens, et donc la limite H égale 0 correspond justement à ce modèle de Bakri-Muzy. Mais encore une fois, tout un pan de mathématiques très modernes se développe autour de cette construction à H égale 0, donc qui a des applications en théorie des matrices aléatoires, en gravité quantique. Ça correspond donc à ce qu'on appelle le champ libre gaussien à deux dimensions. Et toute une littérature mathématique très récente s'intéresse aux propriétés fines de ce mouvement brownien fractionnaire de Mandelbrot à H égale 0. Donc, avant de revenir aux modèles les plus récents, et en particulier donc à cette idée de mouvement brownien fractionnaire rugueux avec H inférieur à 1,5, voire très petit, pour décrire la volatilité, dont vous parlera d'ailleurs Jim Gatherall dans le séminaire qui suit ce cours. Je voudrais revenir un petit peu dans ma longue historique de la création de modèles pour décrire les marchés financiers, revenir en arrière et vous parler des modèles qui ont été proposés pour décrire justement cette intermittence de la volatilité, cette non-constance de la volatilité. En particulier, en parlant d'un modèle qui a été introduit par Engel en 1980, Engel, donc prix Nobel d'économie pour ses travaux justement sur ces fluctuations de volatilité, donc il s'appelle les modèles ARCH ou GARCH, donc c'est un acronyme un peu barbare dont je n'essaierai même pas de dénoncer ici. Mais donc l'idée de ces modèles GARCH, disons, c'est d'écrire la variation du log du prix entre deux instants du temps T-1 et T comme le produit de deux variables aléatoires. Donc vous voyez l'équation ici. Donc deux variables aléatoires, sigma, qui va avoir sa dynamique propre, et xi, qui est supposée une variable gaussienne centrée, réduite, sans intérêt particulier. Et tout l'intérêt de ce modèle GARCH est contenu dans l'évolution de la volatilité, sigma t, qui est supposée être le carré de la volatilité, un niveau de base, s carré, plus une contribution qui vient de ce qui s'est passé dans le passé. Donc plus une contribution potentiellement sur tous les jours passés, si on pense à T-1 et T comme une journée qui s'écoule, donc d'un certain noyau K de taux, qu'on voudrait prendre décroissant, en imaginant que l'influence du passé décroît avec la distance qui nous sépare de ce passé. Et puis, la variation de prix observée, la variation de prix réelle du cours au carré, au temps t moins tôt. Et donc, l'idée de ces modèles, c'est d'introduire une rétroaction explicite du type de celle que Mandelbrot décrivait. Les variations des cours passés semblent exciter en quelque sorte le marché aujourd'hui et faire en sorte que la volatilité réalisée soit plus forte quand elle a été forte dans le passé. Donc, évidemment, dépendant de la forme du noyau K qu'on choisit, on construit un modèle différent. Les modèles les plus classiques sont quand K de taux est une exponentielle, et à ce moment-là, on construit le modèle Garche. Et voilà une représentation, ici, donc en haut à droite, de la trajectoire des prix et la dérivée discrète de ces variations de prix. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a certaines choses qui fonctionnent. On a bien une intermittence de la volatilité, on a bien des queues relativement épaisses, qui sont comparables à ce qu'on observe dans une chronique réelle de prix. Mais ce qui ne marche pas dans ces modèles avec un noyau exponentiel, c'est qu'en choisissant un noyau exponentiel, on identifie une échelle de temps, qui est l'échelle de temps de l'exponentielle, et du coup, on introduit dans la dynamique de la volatilité une échelle de temps caractéristique qu'on observe presque à l'œil nu. On voit bien qu'il y a une espèce de régularité avec laquelle, une pseudo-régularité avec laquelle les pics de volatilité apparaissent et disparaissent, ce qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, dans les marchés réels où on voit cette présence d'un très grand nombre d'échelles de temps entre des échelles de temps très courtes. Le marché parfois s'agite pendant 5 minutes et se calme. Il reste parfois agité pendant une dizaine d'années, comme après le crack de 29. Donc, les plus de ce modèle, c'est peut-être le fait que c'est une première tentative d'introduire une rétroaction explicite, donc avec un modèle peut-être d'agent derrière qui fait en sorte que les agents financiers ont observé une volatilité haute dans le passé et ça va conduire à une modification de leur manière d'agir dans le futur. Une intermittence et des queues épaisses. On verra tout à l'heure une propriété très intéressante, très fine, qui est que ce modèle Garche n'est pas invariant quand on change la direction du temps, ce qui est effectivement quelque chose qu'on observe dans les séries financières, j'y reviendrai. Mais les points négatifs, c'est qu'effectivement, on a une volatilité mono-échelle. Ou alors, si on prend un noyau K de taux qui est en loi de puissance, pour se débarrasser de cette échelle de caractéristiques, les queues de distribution ne sont du coup pas assez épaisses. On a l'impression qu'il y a un compromis qu'on n'arrive pas à trouver entre, disons, multi-échelles du noyau K de taux et donc des fluctuations de volatilité et amplitude des queues de distribution. Et puis par ailleurs, le modèle par construction identifie une échelle de temps qui est taux égal 1, qui pourrait être un jour, mais qui est un peu arbitraire, et quand on change l'échelle de temps, on change le modèle, et en tout cas on change les paramètres de calibration qu'on tire quand on compare le modèle à la réalité. Donc ça serait bien d'avoir un modèle de type Garche qui se débarrasse de cette échelle de temps arbitraire taux égal 1, et à nouveau, je discuterai tout à l'heure comment on peut s'y prendre pour la faire disparaître. Alors, un autre modèle très classique et très étudié, très utilisé de volatilité stochastique est le modèle qu'on appelle le modèle de Heston, où on considère donc que sigma carré, que j'appelle V ici, suit lui-même une dynamique stochastique en temps continu. Donc ici, on n'a plus d'échelle de temps discrète comme dans le modèle Garche. Et donc, on écrit une équation différentielle stochastique pour l'évolution du carré de la volatilité, qui contient deux termes. Un premier terme de retour à la moyenne étant θ, et un second terme d'agitation, en quelque sorte, donc dB est le mouvement, la dérivée du mouvement brownien, donc le bruit blanc de Wiener, et puis surtout une volatilité qui dépend elle-même, une volatilité de la volatilité qui dépend elle-même du niveau de volatilité comme la racine de cette volatilité. Alors c'est un processus très connu en mathématiques, c'est un processus dit de Bessel, sur lequel on sait beaucoup de choses. On peut donc résoudre le modèle quasi... Enfin, on connaît énormément de choses analytiquement sur ce modèle. Et il est par ailleurs micro-fondé, dans le sens où on peut réellement faire apparaître ce modèle comme une limite continue d'un modèle où les agents rétroagissent à nouveau sur un passé observé. Et j'en parlerai un petit peu plus tard dans le cadre donc, des processus dits de Hawkes. Les points négatifs de ce modèle sont d'une part que, à nouveau, la volatilité est mono-échelle. Elle est mono-échelle parce qu'on a introduit une échelle de temps qui est 1 sur lambda ici. Et donc cette échelle de temps se voit dans l'évolution de la volatilité elle-même. Donc, contrairement à cette volatilité multi-échelle qu'on observe sur les marchés financiers, on n'arrive pas à attraper par ce modèle de Heston trop simple cet aspect multi-échelle de temps. Et par ailleurs, à cause du fait que cette volatilité est excitée par un brownien en quelque sorte, la régularité de V est celle du mouvement brownien. Donc si on pense à V comme un mouvement brownien fractionnaire, en fait, la valeur de H, la valeur de l'exposant de Hurst ou de la régularité qui caractérise l'évolution de la volatilité est celle du brownien et donc pas assez rugueuse par rapport à ce qu'on observe empiriquement si on représente la chronique de la volatilité et non plus du prix. Vous verrez plus de détails sur cet aspect du problème dans le séminaire de Jim Gatherall plus tard. On a aussi des queues qui ne sont pas assez épaisses, du coup, des queues de distribution des variations de prix qui sont exponentielles et pas en loi de puissance. Et surtout, on a un processus de prix et de volatilité qui est invariant quand on renverse le sens du temps. Et à nouveau, c'est quelque chose qui est en désaccord avec certaines propriétés fines des marchés financiers. Donc, je voudrais un peu résumer finalement les observations initialement du Mandelbrot, mais qui se sont raffinées avec le temps, avec les données accessibles. On a des variations de prix qui, au contraire d'être gaussiennes, ont des queues de distribution très épaisses. Donc ici, ce qu'on voit, ce sont des données qui ont été compilées par le groupe de Gene Stanley dans les années 90 avec Xavier Gabay sur les variations de prix sur des échelles de temps relativement courtes, d'une demi-heure à la journée, disons. Et ce qu'on voit, c'est donc que la loi de répartition des variations de prix, de la valeur absolue des variations de prix en unité de volatilité, ces variations de prix possèdent une loi de puissance très bien caractérisée, avec un exposant, donc mu, qui est de l'ordre de 3. Donc la loi explicite est celle-là, la fonction de répartition, la probabilité d'observer une variation de prix plus grande qu'un certain R décroît comme 1 sur R puissance 3 et non comme exponentielle de moins R carré si les cours étaient gaussiens ou exponentielle de moins R si on était dans le cadre du modèle de Heston. Donc des cours de loi de puissance très marquées et donc une volatilité caractérisée par la fonction de corrélation du carré des variations de prix observées, donc c'est la définition que j'ai donnée ici, en oubliant de soustraire le produit des moyennes. Mais donc, vous voyez l'idée, on regarde l'autocorrélation de l'amplitude et non du signe des variations de prix. Et ce qu'on trouve, c'est que cette décroissance se fait extrêmement lentement. Ici, on a un ajustement avec une loi de puissance en taux, taux étant ici en jours. Donc vous voyez que c'est une mémoire vraiment longue, 100 jours, 200 jours. Donc au bout d'un an, on voit toujours cette décroissance très lente qui correspond effectivement à l'observation à l'œil nu, disons, des séries financières où on voit que la volatilité peut rester haute pendant très très longtemps. Alors si on ajuste l'exposant de la loi de puissance de décroissance du carré des variations de prix, on trouve des exposants très faibles, autour de 0,2. Et plus précisément, donc, si on s'intéresse au log de la volatilité, on se rend compte que le processus log-volatilité est très proche d'un mouvement brownien fractionnaire à la Mandelbrot, avec un H très faible. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre du modèle à volatilité rugueuse qui a été proposé il y a 5 ou 6 ans par le groupe de Gaverol, Gesson et Rosenbaum, avec une valeur de H donc, qui décrit la régularité du log de la volatilité autour de 0,1, ou est-on dans le cadre strictement multifractal de Bacri, Buzy, Delour, où H formellement tend vers 0? C'est une question qui n'est pas du tout évidente du point de vue empirique, mais les auteurs, donc Gaverol et al., préfèrent, pour des raisons liées à, à certaines observations empiriques, la version H égale 0,1, même si en pratique, ces deux versions ne sont pas très, très éloignées l'une de l'autre. Alors, une autre façon de résumer un petit peu ce qui se passe dans les marchés financiers, et à nouveau en revenant sur l'analogie qui avait inspiré Mandelbrot, à temps court, on a donc une statistique violemment non gaussienne, avec des codes de distribution très larges, très épaisses. Et au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente, on voit progressivement une distribution qui devient de plus en plus gaussienne. Vous vous souvenez, je vous avais montré les données de Bachelier lui-même qui montraient effectivement que sa théorie des options était de plus en plus précise au fur et à mesure que l'échelle de temps augmente. Et alors là, ce que j'ai représenté, c'est des observations qu'on fait dans un écoulement turbulent où on regarde la loi de distribution des variations de vitesse entre deux points donnés de l'écoulement en fonction donc de la distance entre ces deux points. Et ce qu'on voit, c'est qu'à petite distance, on a des chocs, ce qui s'interprète comme des chocs en hydrodynamique, des espèces de discontinuités du flot turbulent qui induisent des queues de distribution extrêmement épaisses. Et au fur et à mesure qu'on écarte les deux points de mesure, la différence de vitesse dans l'écoulement devient de plus en plus gaussienne. Et de la même façon, et avec une analogie visuelle qui est assez frappante, des cours, ici le S&P 500, qui a des codes de distribution importantes à temps court et qui devient de plus en plus gaussienne à temps long. Alors ici, pour comprendre ce que je viens de dire, il faut quand même que je vous dise que ce qu'on représente, c'est l'histogramme ou la loi de distribution des différences de vitesse ou des différences de prix en échelle logarithmique, ce qui fait que la gaussienne apparaît comme une parabole inversée. Et tout ce qui est justement à une concavité dans l'autre sens indique des queues de distribution épaisses. Alors, pour revenir sur le théorème limite centrale limite que Bachelier avait démontré, en quelque sorte, ou en tout cas, pas forcément avec une rigueur mathématique, mais dont il avait montré comment presque physiquement ce théorème de limite centrale apparaît. Ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, les variations de prix sont décorrélées. Il est difficile de prédire l'avenir. La loi de Bachelier qui montre que la variance de la variation de prix croît linéairement avec le temps indique que les accroissements de prix sont en effet décorrélés. Mais décorrélé ne veut pas dire indépendant. Et en fait, effectivement, à cause de ces corrélations de volatilité très fortes, on a des variables qui sont très fortement non indépendantes, avec une mémoire longue. Mais néanmoins, on peut montrer, même dans ce cadre élargi, que le théorème de la limite centrale continue à s'appliquer, mais il s'applique d'une certaine façon, de façon retardée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une convergence relativement rapide vers la gaussienne, comme dans le cadre de variables indépendantes, qui est le cadre classique du théorème de la limite centrale, la présence d'une mémoire longue dans la volatilité, donc d'une mémoire qui décroît en loi de puissance, avec un exposant que j'ai appelé nu, conduit à une convergence vers la gaussienne qu'on peut qualifier d'ultra-lente, puisqu'au lieu de converger comme disons, 1 sur t, si on s'intéresse à des lois symétriques, où t est l'échelle, le nombre de variables qu'on agrège, cette mémoire longue de la volatilité fait que la convergence se fait en t puissance moins nu, donc avec un nu qui, comme je le disais, vaut 0,2. Alors, j'ai insisté sur ce point depuis tout à l'heure, mais je voudrais vous montrer un exemple particulièrement frappant de cette universalité. Toutes ces observations qu'a faites Mandelbrot au départ et qui ont été refaites ensuite sur différents types de marchés à différentes époques, montrent toujours le même genre de régularité statistique et d'anomalie par rapport au mouvement brownien de Bachelier. Et donc, j'ai découvert récemment cet article qui parle de... C'est un article d'histoire, en fait, qui parle des chroniques de prix du blé, en particulier sur des échelles longues. Et en particulier, ils ont des données relativement précises sur l'évolution des cours du blé mensuel à Paris entre 1800 et 1860. Et donc, ce que j'ai représenté à droite, c'est la valeur absolue des variations de prix en fonction du temps. Et vous voyez cette volatilité qui est intermittente. Et à gauche, c'est la fonction de corrélation des variations de prix mensuelles, cette fois-ci au carré, avec une magnifique décroissance, donc entre un mois et 100 mois, en loi de puissance avec un exposant 0,15. Donc à nouveau, la même phénoménologie sur les marchés du blé à Paris mensuellement que la phénoménologie qu'on observe sur les marchés électroniques actuels de par le monde. Alors en termes conceptuels, cette universalité, cette apparition de loi de puissance à la fois dans les variations de prix et dans l'histogramme des variations de prix, mais aussi dans l'autocorrélation, dans la mémoire longue de l'autocorrélation de la volatilité, font penser à l'existence peut-être d'un point critique, d'une transition de phase. Le marché serait donc près de ce point critique, ce qui expliquerait pourquoi on observe à la fois ces lois extrêmement non gaussiennes, non exponentielles, ces processus à mémoire longue, et aussi pourquoi ces exposants sont relativement universels. Alors, je vais vous montrer quelques exemples supplémentaires d'universalité dans le transparent suivant, mais c'est vraiment une question complètement ouverte. Est-ce que cette universalité est effectivement une réalité du point de vue empirique? Est-ce que cette universalité en effet est associée à l'existence d'un espèce de point critique où le marché spontanément s'auto-organiserait pour conduire à des comportements qui ressemblent au comportement de systèmes physiques à proximité d'un point de transition de phase? Ce sont des questions complètement ouvertes qui me semblent particulièrement importantes pour comprendre la dynamique des marchés financiers, mais peut-être aussi d'autres types de systèmes, et pour laquelle, évidemment, la physique statistique devrait pouvoir contribuer. Et c'est donc bien l'objet de mon cours d'attirer l'attention sur ces ponts possibles. Alors, sur cette question d'universalité, en particulier de la valeur de l'exposant mu, qui est donc l'exposant qui régit les codes distribution des variations de prix, donc je vous remontre, vous souvenez, je vous avais montré ce graphe-là qui date des années 90 pour les actions américaines. C'est un graphe qu'on peut refaire à l'heure actuelle, donc c'est des données maintenant entre 2012 et 2019, et donc c'est une représentation à nouveau des variations de prix en échelle de volatilité. L'axe des Y est en échelle logarithmique, la gaussienne est une parabole inversée, et ce qu'on voit à nouveau, maintenant sur la loi de distribution et non sa version cumulée, qu'une loi dite de Student, qui a des queues en loi de puissance avec un exposant qui vaut justement 3, ajuste très bien les données, aussi bien qu'il les ajustait dans les années 90. Ce graphe ici montre que ces queues de distribution semblent ne pas dépendre du type de l'instrument financier considéré, qu'on considère des actions individuelles, stock, ce qu'on appelle des CDS sur actions individuelles, ou ce qu'on appelle la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité que les marchés d'options valorisent. On a des variations de ces trois types de prix d'un jour sur l'autre qui se ressemblent énormément. Donc, à nouveau, cette impression d'universalité qui suggère qu'indépendamment de l'objet qui est soumis aux lois du marché, la spéculation, disons en quelque sorte, l'interaction entre des agents qui s'échangent un objet spéculatif conduit à l'émergence de ces lois de puissance. Sur le graphe du bas, j'ai représenté la valeur de mu autour de 3, donc c'est un graphe qui n'est peut-être pas très joli, pour des instruments très différents, des instruments dits futurs sur des indices financiers, des indices, enfin des matières premières, des devises. Et alors on voit effectivement un peu de variabilité, en particulier les devises semblent être caractérisées par un exposant qui est légèrement supérieur à 3, qui est plutôt autour de 4 ou 5. Mais sinon, on a, disons, une assez forte agrégation des données autour de la valeur 3 ou 3,5. Pourtant, on a encore une fois des sous-jacents, donc des instruments financiers qui sont très différents les uns des autres. Cours du blé, j'en parlais tout à l'heure, on a aussi ici des céréales, je crois. Indices boursiers, obligations, etc. Alors, il y a tout un tas de détails quand on cherche vraiment à établir cette propriété d'universalité, tout un tas de détails qui peuvent avoir leur importance et que je vais passer un peu sous silence ici. En particulier, vous avez constaté par exemple ici que j'ai dit que ce sont les variations de prix ramenées à la volatilité, en échelle de volatilité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette volatilité ? Est-ce que c'est la volatilité moyenne sur tout l'historique ? Est-ce que c'est une volatilité locale ? On sait que la volatilité elle-même est une variable aléatoire. J'ai passé plusieurs transparents sur cette histoire. Donc, quelle volatilité exactement, de quelle volatilité s'agit-il ? Et dépendant de la volatilité qu'on choisit, on pourrait affecter le résultat dont je vous parle. On pourrait aussi dire, mais il existe des tests statistiques comme le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester si deux variables aléatoires ont la même distribution, même quand ces deux variables sont déterminées de façon complètement empirique. Et que disent ces tests de Kolmogorov-Smirnov sur cette hypothèse d'universalité ? Et là, en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée parce que les tests de Kolmogorov-Smirnov supposent qu'on a des variables indépendantes. Or, à nouveau, pour cette question de volatilité corrélée à longue portée, les variables en question, les variations de prix, sont des variables qui sont très très loin d'être indépendantes. Et donc, il faut en fait raffiner le test de Kolmogorov-Smirnov pour prendre en compte la non-indépendance des variables que l'on teste. Et si on fait ça, en réalité, la mémoire longue conduit en quelque sorte à réduire considérablement la taille de l'échantillon, la taille effective de l'échantillon. Mémoire longue, ça veut dire en quelque sorte que les variables se répètent énormément dans la série qu'on observe. Donc, même si on a 10 000 points, la mémoire longue fait que de façon effective, on n'en a que 100 ou 1000. Et du coup, si on applique ce test de Kolmogorov-Smirnov modifié aux données financières, et en particulier aux données sur des actions individuelles, on trouve que l'hypothèse d'universalité ne peut pas être rejetée dans le cas des actions. Alors, une autre pierre à l'édifice pour construire une théorie de ces sauts, une théorie de cette statistique non gaussienne, c'est la constatation qu'une grande partie de ces sauts sont de nature endogène et ne semblent pas liés à quelque chose qui se passe en vrai dans le monde économique ou financier. Donc j'y reviendrai beaucoup au cours du cours numéro 2, mais quelque chose qui perturbe les commentateurs, qu'ils soient académiques ou de la presse depuis longtemps, c'est que non seulement les cours des actifs financiers sautent, mais souvent ils sautent sans raison valable, en quelque sorte, sans qu'on puisse identifier la raison pour laquelle les prix bougent autant. Alors c'est un vieux problème qui a été souligné par Schiller en 1980, qui parle d'une volatilité en excès des prix des actions ou des actifs financiers. Donc comme je l'ai dit, j'y reviendrai beaucoup au cours suivant, mais si on regarde même de façon plus microscopique, en quelque sorte, jour par jour, ou même minute par minute, si on s'intéresse au moment où le prix saute, où on a justement ces événements qui contribuent aux queues de distribution, c'est très difficile, dans un grand nombre de cas, de trouver une explication valable pour laquelle le prix aurait tant bougé. En particulier, donc, une étude très connue de Cutler, Potterby et Summers en 1988 qui s'appelle « What moves stock prices ?». Et ce qu'ils constatent, c'est donc sur les mouvements journaliers de la bourse américaine, constate qu'un très grand nombre d'entre eux n'ont pas de cause valable, en quelque sorte. Alors, le plus gros crack de leur histoire, c'est donc 87, dont j'ai parlé tout à l'heure. En octobre, 19 octobre 87, la bourse chute de 20%. Et en réalité, les raisons de cette chute sont dues à une boucle de rétroaction, due en particulier à l'utilisation de la théorie de Black-Scholes. Mais en effet, si on regarde ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, il n'y a rien de très très particulier qui pourrait expliquer pourquoi le mouvement de la bourse a une telle amplitude. Alors ensuite, on a des jours qui sont proches du 19 octobre, donc on va les éliminer. Mais si vous regardez un peu plus bas, le 3 septembre 46, moins 6,73%. Et dans les jours, donc leur étude a consisté à regarder ces jours de grandes variations et de regarder dans les journaux contemporains s'il se passe quelque chose de particulier. Et donc, no basic reason for the assault on prices. Alors ensuite, on a le 28 mai 62, une régulation des prix de l'acier, rien de très particulier, mais pourtant le prix, enfin l'indice américain chute de 6,68. Alors ensuite, il y a des vrais événements. Donc, en effet, dans certaines conditions, des nouvelles importantes font beaucoup bouger les prix. Mais le point de cette étude, c'est que un grand nombre d'événements, au contraire, ont lieu sans cause apparente. Donc, les deux événements suivants, c'est crise cardiaque d'Eisenhower et démarrage de la guerre de Corée. On peut imaginer effectivement que ça conduise à des grandes variations de prix. Mais ensuite, quand vous regardez plus loin dans la liste, les investisseurs cherchent des quality stocks et la bourse monte de 5,33%, etc. Donc cette étude, on peut la reproduire à l'échelle de la minute. Donc c'est un travail qu'on avait effectué avec Armand Joulin et collaborateurs en 2008 et qui est conduit, cette étude est reconduite à nouveau par Riccardo Marcaccioli avec des données nouvelles. Et effectivement, on voit toujours la même chose, c'est-à-dire qu'un grand nombre de ces sauts ne sont pas expliqués par des nouvelles particulières. Et le profil de volatilité après le saut est différent suivant que le saut soit dû à une nouvelle ou apparaisse dans un ciel bleu, en quelque sorte. Donc à nouveau, cette prévalence de sauts sans nouvelles fait penser au fait que le marché est proche d'une instabilité et que c'est un scénario qui pourrait être universel pour expliquer donc, la nature universelle de ces variations de prix. Alors comme je le signalerai plus tard dans le cours, ce problème de volatilité en excès, de marché financier qui semble bouger pour aucune raison, s'observe aussi de façon plus globale dans les variations du PIB des grandes économies. Et donc le paradoxe de Shiller, qui s'appelle le puzzle de Shiller, qui s'appelle l'excess volatility puzzle, se retrouve dans la littérature macroéconomique cette fois-ci sous le nom de small shocks, large business cycles. Donc le fait que même en l'absence de raisons profondes pour lesquelles l'économie pourrait fluctuer beaucoup, on a des grandes variations de PIB d'une année sur l'autre. Pour mémoire, d'autres lois de puissance bien connues et qui ont une certaine universalité à nouveau, la loi de distribution de la taille des villes, la loi de distribution de la taille des entreprises, la loi de répartition des revenus ou des fortunes, donc c'est une observation qui est due à Pareto, un contemporain de Bachelier. Et donc Pareto observait effectivement que la loi de répartition des fortunes dans une population était remarquablement, d'abord, était une loi de puissance, donc une loi queue épaisse, mais en plus, était remarquablement universelle. Et il écrit « These results are most remarkable. It's absolutely impossible to admit that they are only the result of chance. There must be no doubt a cause which produces a tendency for incomes to lie according a certain curve. » Et donc, il souligne effectivement que pour des pays de conditions économiques aussi différentes que l'Angleterre, l'Allemagne, les villes italiennes ou même le Pérou, on observe le même type de comportement. Donc, à nouveau, cette idée d'universalité, de comprendre pourquoi certains phénomènes sont décrits par des lois de puissance et comment ces lois de puissance apparaissent, pourquoi l'exposant qui décrit ces lois de puissance pourrait être universel, est un des trophées de la physique statistique des 50 dernières années. Alors, je vous ai dit donc que plus on regarde les séries financières et plus on trouve des anomalies ou d'autres observations qu'il faudrait expliquer, je voudrais vous en donner quelques-unes ici. La première, c'est que donc le graphe que je vous ai présenté tout à l'heure au sujet de la thèse de Bachelier, qui montrait la volatilité en fonction du temps, enfin plutôt la variance des variations de prix en fonction de l'échelle à laquelle on l'observe, et je vous avais dit que c'est à peu près linéaire en temps. Alors une meilleure façon de représenter cette observation, c'est de diviser la variation des prix, la variance des variations de prix par le temps lui-même, par taux. Et si la loi de Bachelier était exactement observée, on observerait une constante. La volatilité ne dépendrait pas de l'échelle de temps à laquelle on la regarde, donc la variance de l'écart de prix croîtrait strictement linéairement. Et si on fait cette analyse sur des données actions, on voit des variations par rapport à cette loi de Bachelier. Vous voyez que c'est des variations qui ne sont pas très importantes, peut-être 10%, 15%, mais ce qu'on voit de façon relativement universelle sur tous les actifs financiers, c'est qu'on a une première partie qui est plutôt sous-diffusive, donc la volatilité a tendance à décroître en fonction de l'échelle de temps, ce qui correspondrait dans un mouvement brownien fractionnaire à H inférieur à 1,5, et puis ensuite une partie où la volatilité augmente avec l'échelle de temps, qui correspond plutôt à H supérieur à 1,5, et donc à des tendances. Donc curieusement, les variations de prix ne sont pas exactement diffusives, elles ont tendance à revenir en arrière à des échelles de temps courtes. Alors ici, courte, ça veut dire 50, c'est l'échelle des X, c'est en jours, donc 50 jours. Sur un ou deux mois, on a plutôt une tendance au retour en arrière, et sur des échelles de temps plus longues, une tendance à la persistance. Et puis alors, il y a d'autres fonctions de corrélation plus subtiles, et en particulier reliées à cette histoire d'invariance par renversement dans le temps que j'ai mentionné. Donc une corrélation qui est très connue, c'est la corrélation dite effet leverage, qui est un nom qui n'est pas particulièrement évocateur, mais qui veut dire que quand on mesure la corrélation entre variation de prix passé, R, et volatilité future, sigma, on voit quelque chose qui est négatif, et qui est très clairement négatif, ce qui veut dire qu'une baisse des prix conduit à une augmentation de la volatilité future. Et réciproquement, une hausse des prix conduit à une baisse de la volatilité future. Il n'y a pas d'effet dans l'autre sens, autrement dit, ce qu'a fait la volatilité dans le passé n'influe pas les variations de prix futures, enfin le signe des variations de prix futures en tout cas, mais dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens variation de prix sur volatilité, on voit un effet très fort qu'on peut interpréter comme une espèce d'effet panique. Quand les prix baissent, les gens ont tendance à s'inquiéter plus et la volatilité augmente. Alors du point de vue des symétries, il faut noter que cet effet dit leverage est un effet qui disparaît si fictivement, sur les séries temporelles, on retourne le sens des variations de prix. C'est-à-dire que, disons empiriquement, on aurait sa série temporelle de R, return, et puis, de façon artificielle, on rajoute la même série de prix, mais avec des returns dont on a changé le signe. Et dans ce cas-là, cette corrélation leverage disparaît. Donc c'est une violation de la symétrie T en moins T. Vous voyez ici, il y a un effet passé-futur qui est très clair, mais c'est un effet qui disparaît quand on resymétrise le signe des changements de prix. En revanche, il y a une autre corrélation qui est plus subtile, qui a été découverte par Gilles Zumbach dans les années 90. C'est une corrélation qui ne disparaît pas quand on change le signe des variations de prix et qui est une corrélation entre variation de prix passée au carré et volatilité future. Donc là, ce qui est représenté, c'est une différence entre cette corrélation entre R carré passé et sigma quand on change le signe du temps, et vous voyez que les deux courbes sont légèrement différentes l'une de l'autre. C'est un petit effet, mais qui est tout à fait significatif. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il existe un effet qui est assez subtil, qui est un effet qui viole la symétrie par renversement du temps, et qu'en principe, un modèle cohérent des données financières devrait pouvoir reproduire. Alors, ce qui nous amène donc au modèle de Hawkes, qui sont la dernière tentative, en quelque sorte, de construire des modèles qui sont au plus près des données financières, et en particulier à cette dernière observation sur l'effet zoom-back. Alors, les modèles de Hawkes ont été introduits pour décrire une intermittence dans un domaine très différent de la finance, qui est l'intermittence des tremblements de terre. Donc, vous savez tous que quand un tremblement de terre se produit, la probabilité d'en observer un second très rapidement après est augmentée. Et donc, Hawkes a proposé de décrire la séquence d'événements qui correspond à l'observation d'un tremblement de terre par un processus de Poisson, mais un processus de Poisson subordonné à son propre passé. Donc, l'idée, c'est d'avoir donc, un processus ponctuel dont la probabilité de se réaliser et de façon classique proportionnelle à petite augmentation de temps dt. Donc, quelle est la probabilité d'observer cet événement entre t et t plus dt? De façon classique, c'est lambda dt, où lambda est l'intensité du processus de Poisson, et ceci de façon indépendante pour chaque pas de temps. Alors, l'idée de Hawkes au lieu de prendre une valeur de cette intensité du Poisson constante, c'est de faire défendre cette intensité de la réalisation du processus lui-même dans le passé. Un petit peu, si vous vous en souvenez, comme Engel avait supposé que la volatilité aujourd'hui dépend de ce qui s'est passé réellement les jours passés. Donc ici, le noyau de rétroaction est appelé phi, et l'équation qui donne l'intensité actuelle du Poisson subordonné, du Hawkes, est égale à un niveau de base, lambda infini, plus une contribution qui vient des événements passés. Donc, pour les marchés financiers, on pourrait imaginer que à chaque changement de prix, le processus de comptage augmente de 1, et donc on peut avoir des changements de prix qui se réalisent de façon complètement aléatoire comme un Poisson, ou au contraire, comme un Poisson subordonné à la Hawkes. Mais on pourrait considérer d'autres types d'événements comme les événements qu'on veut considérer. Par exemple, à chaque fois qu'un nouvel ordre marché est observé, ou à chaque fois qu'un nouvel événement se produit dans le carnet d'ordre, vous pouvez choisir la définition de l'événement que vous voulez, mais peut-être pour simplifier la discussion aujourd'hui, je vais imaginer que ces événements sont des changements de prix. Donc dn égale 1 à chaque changement de prix, dn égale 0 quand il ne se passe rien. Alors ce processus de Hawkes est bien défini en quelque sorte si le noyau de rétroaction n'est pas trop fort, mais explose, diverge, si la rétroaction se fait trop forte. On peut imaginer effectivement que si on est sensible à ce qui s'est passé dans le passé, si on est trop sensible, si la probabilité qu'il se passe quelque chose dans l'avenir augmente trop vite en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, le processus peut s'emballer et diverger. Et effectivement, on peut montrer assez simplement que le critère de stabilité de ce processus de Hawkes est régi par un objet que j'ai appelé petit n ici, qui est la norme du noyau de Hawkes, la norme du noyau phi. Et on a stabilité du processus si n est inférieur à 1 et explosion s'il est supérieur à 1. Alors, en termes de la discussion que je vous ai proposée jusqu'à présent, c'est-à-dire le fait qu'on a l'impression que dans les marchés financiers, un très grand nombre d'événements sont de nature endogène et pas de nature exogène, cette distinction entre endogène et exogène peut être faite de façon extrêmement précise dans le cadre d'un processus de Hawkes. Et la fraction d'événements exogènes, la fraction d'événements qui sont dus à ce lambda infini ici et non au noyau de rétroaction, est exactement donnée par 1 moins petit n. Donc quand n se rapproche de 1, la fraction des événements exogènes tend vers 0. Alors, quand on calibre ce type de modèle aux données financières, on se rend compte qu'on retombe à nouveau sur des problèmes de mémoire longue. En particulier, ce noyau phi est très bien ajusté. Je vais représenter ici 1 moins la fonction de répartition de phi, enfin la primitive de phi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs observations qui sont importantes. La première, c'est que ces noyaux sont en loi de puissance. Donc on retrouve le phénomène de mémoire longue quand on calibre les données financières à ce modèle de Hawkes. L'exposant alpha ici est proche de 1,5. On voit qu'il vaut 0,45. Et surtout, cette fraction, la valeur de petit n, est très très proche de 1. Ici, on a même l'impression qu'elle s'extrapole à 1 à temps long. Donc vous voyez, à nouveau, c'est sur des échelles de temps qui sont très très... on a une loi de puissance qui s'étale entre quelques minutes et plusieurs semaines. Et si l'intégrale de phi est proche de 1, ça veut dire que la fraction d'événements exogènes pour expliquer cette activité dans les marchés financiers est très faible. Et donc, on retombe à nouveau, mais de façon très précise cette fois, sur ce puzzle de Shiller, ce excess volatility puzzle. D'où viennent tous ces événements qui semblent être dus à la rétroaction des événements passés plus qu'à quelque chose qui se produit réellement dans les marchés. Et à nouveau, d'où vient cette mémoire longue de phi? Pourquoi est-ce une loi de puissance? Quelle est la justification de la valeur de alpha proche de 1,5? Alors, ces processus de Hawkes ont été donc l'objet d'études récentes, et je voudrais vous mentionner plusieurs résultats qui me semblent intéressants. Le premier, c'est que on peut prendre la limite continue de ces processus de Hawkes quand n est proche de 1, donc quand on est proche de l'instabilité. C'est un travail qui a été réalisé par Gesson et Rosenbaum. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types de processus de Hawkes quasi-critiques. Soit les noyaux phi sont à courte portée, c'est-à-dire exponentielle ou avec une loi de puissance dont l'exposant est plus grand que 1. Donc à nouveau, cet exposant ici, alpha, s'il est suffisamment grand, la loi de puissance décroît suffisamment vite. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, on retrouve exactement, à la limite continue, le modèle de Weston classique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si vous vous souvenez, je vous ai dit, ce modèle de Weston classique est micro-fondé en quelque sorte, parce que en effet, il apparaît comme une limite naturelle d'un processus où le marché réagit à sa propre activité. En revanche, si le noyau est à longue portée, comme ça a l'air d'être le cas empiriquement, puisque je vous ai montré ces données qui montrent un alpha plus petit que 1, autour de 1,5, alors on a un nouveau type de modèle de Weston à la limite continue, que Gesson et Rosenbaum appellent le modèle de Weston rugueux. Et donc j'ai écrit ici formellement la définition de ce modèle de Weston rugueux. Et il est rugueux parce que la volatilité est un processus qui est une régularité H, au sens des browniens fractionnaires, qui vaut alpha moins 1,5 et qui est donc très proche de 0. Donc un processus de volatilité extrêmement rugueux et très proche de cette limite multifractale dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce modèle donc est très intéressant, en effet. Il reproduit la nature très rugueuse de la volatilité, mais à nouveau, il pêche par plusieurs côtés. Le premier, c'est que les queues de distribution des variations de prix ne sont pas assez épaisses. On ne reproduit pas ces lois de puissance sur lesquelles j'ai insisté depuis le début du cours. Et d'autre part, on a dans ces modèles de Weston ou de Hawkes quasi-critique, on a invariance par renversement du temps. On n'a pas l'effet Zumbach. On peut se débrouiller pour avoir l'effet leverage. On peut avoir le terme qui viole la symétrie T-T et R-R à la fois, mais on n'a pas l'effet Zumbach qui viole la symétrie T-T, mais pas R-R. Et donc, une façon de généraliser ces modèles de Hawkes, c'est d'introduire une rétroaction non seulement de l'activité sur elle-même, mais aussi des variations de prix sur l'activité. Et donc voilà un modèle qu'on a proposé il y a quelques années avec Pierre Blanc et Jonathan Donnier, c'est de dire que l'activité actuelle est un niveau de base, comme pour Hawkes, plus un terme qui dépend des variations de prix passés. Donc ici, DPS, c'est la variation du prix au temps S. Donc voilà quelques définitions. Ici, on pourrait définir le modèle comme pour Hawkes, avec une probabilité d'avoir un événement qui est lambda dt. Et une fois qu'on a un changement de prix, c'est-à-dire que dn égale 1, dp peut valoir plus ou moins psi, ou psi est, vaut par exemple 1, si on veut se mettre, si on veut simplifier. Psi pourrait être la variation de prix élémentaire, par exemple le tic dans les marchés financiers. Et donc, le premier terme correspond à une espèce de moyenne des variations de prix passées. Et ça conduirait donc à l'idée que l'activité augmente si elle est négative. Ça fait en sorte que l'activité augmente quand les prix ont baissé. Et puis un second terme quadratique. Donc formellement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a besoin d'un noyau à deux indices temporels, k de t-s et k de t-u, dps, dpu, donc une forme quadratique générale des variations de prix passées, dps, dpu. Donc c'est ce qu'on a appelé un processus de Hawkes quadratique, qui est une généralisation naturelle du processus de Hawkes avec une rétraction quadratique des prix sur l'activité. Alors en termes physiques, c'est ce qu'on appelle un développement de Landau, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte des événements, des éléments à des ordres de plus en plus élevés. Donc en principe, on pourrait continuer le développement, il pourrait y avoir un terme cubique en dp, un terme quartique en dp, mais ici on coupe le développement à l'ordre 2. Qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées dans le passé et que toutes les puissances de DP pourraient en principe intervenir. Ici, pour des raisons de simplicité ou peut-être même pour des raisons plus profondes mathématiques, on s'arrête à l'ordre 2. Et ce qu'on peut constater, ce qui est important, c'est que la partie diagonale de ce noyau K correspond exactement au noyau de Hawkes classique. La raison, c'est que pour S égale U, dps, dpu, ça vaut psi carré fois dns, dnu, mais pour s égale u, ça vaut dns au carré, et comme dn vaut 0 ou 1, dns au carré, ça vaut dns. Et donc, en réalité, la partie diagonale, ce n'est autre que la partie classique du modèle de Hawkes. Alors, on a une condition de stabilité qui est généralisée par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est très proche, en fait, qui est 1 moins la trace de K. Et la trace de K, c'est justement la partie Hawkes du noyau. Alors, on peut calibrer ce modèle sur des données, par exemple, sur les données 5 minutes des actions US entre 2000 et 2009. Et ce qu'on trouve, c'est que ce noyau K de TT', ce noyau donc à double entrée, peut être assez bien approximé par une contribution diagonale, qui est donc la partie Hawkes, plus une contribution de rang 1 sur laquelle je vais revenir dans une minute du point de vue de son interprétation. Et si on regarde la trace de K, c'est-à-dire l'objet qui régit la stabilité du processus, ben on trouve qu'il y a une partie qui provient du noyau de Hawkes qui est autour de 0,74, une partie de la contribution de rang 1 qui est de l'ordre de 0,06. Donc on obtient déjà une valeur qui est égale à 0,8, alors qu'on a pris en compte dans cette calibration que des données à l'intérieur d'une seule journée, c'est-à-dire qu'on a exclu toutes les contributions de la rétroaction qui pourraient provenir des jours précédents. Or, comme vous avez vu tout à l'heure, ici, il y a bien une contribution de rétroaction qui provient des échelles de temps plus longues, et donc on s'attend à nouveau à avoir un processus de Hawkes quadratique qui est très proche de l'instabilité. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en principe, donc, on a une théorie qui devrait être généralisée, mais je ne sais pas comment on peut faire ça, et surtout si la théorie reste bien définie quand on inclut des termes d'ordre de plus en plus élevé. Alors, quel est ce terme supplémentaire? Quel est ce terme de rang 1, k de taux, k de taux prime? Ben, si on revient à la définition du processus de Hawkes quadratique, on voit qu'on peut le réécrire de cette façon-là, dans le cas où K a cette forme simplifiée. Donc l'activité au temps T, c'est un niveau de base lambda infini, plus une contribution de Hawkes, donc la fameuse contribution classique qui est lié au terme diagonale, et puis un terme qui peut s'écrire comme z au carré, où z est une moyenne des variations de prix passées. Et là, donc, ce qu'on voit apparaître, c'est que l'activité actuelle dépend de l'activité passée, mais dépend aussi du mouvement du prix dans un passé récent. Donc l'intégrale de moins l'infini à t de k de t moins s dps, c'est une espèce de moyenne de pente locale du prix sur une certaine échelle de temps, qui est l'échelle du noyau k. Et ce qu'on voit ici, c'est que quel que soit le signe de cette tendance passée, que le prix ait monté ou baissé, on va avoir une augmentation de l'activité future. Et c'est effectivement ce terme-là qui va conduire à cette violation de la symétrie T donne moins T, tout en conservant la symétrie R donne moins R. Donc, une fois qu'on a calibré ce modèle, on peut regarder des simulations du modèle en question. Et ce que vous voyez, c'est donc ici, en fonction du temps, une simulation de la volatilité que génère le modèle, qu'engendre le modèle calibré, et on peut la comparer. Donc, pardon, ici, ce sont des données synthétiques, et ici, ce sont des données empiriques. Et de façon intéressante, on peut montrer, et là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, dans certaines limites, la limite où les noyaux K et Φ sont des noyaux exponentiels, on peut faire un certain nombre de calculs et montrer que la distribution des variations de prix développe une loi de puissance. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est le processus de Hawkes sans terme quadratique qui n'a pas de loi de puissance, qui décroît exponentiellement. C'est la propriété dont je vous ai parlé du modèle de Weston, d'avoir des queues trop fines. Mais quand on rajoute la contribution Hawkes, on fait pousser ces lois de puissance avec des exposants qui sont très proches des exposants de mu égale 3 ou mu égale 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Or, le modèle n'a pas été calibré pour reproduire cette valeur de l'exposant. Il a été calibré sur K lui-même. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que même si l'amplitude du terme quadratique est faible par rapport au terme Hawkes, 0,06 par rapport à 0,74, la présence de ce terme quadratique fait apparaître des lois de puissance. Et ici, il faut constater deux choses. La première, c'est que même si la contribution, donc, que j'ai appelée NZ ici, le poids du noyau Zumbach, du noyau quadratique, est très faible, on peut analytiquement comprendre pourquoi la valeur de mu peut se retrouver. La valeur de mu, je vous rappelle, c'est donc la valeur de l'exposant qui régit la loi de distribution des variations de prix, peut se retrouver très proche de valeur empirique, alors que si nz égale 0, on perd complètement la loi de puissance, on se retrouve dans le cadre de Hawkes classique. Donc il y a une interaction intéressante dans ce modèle entre les noyaux Hawkes et les noyaux z, qui, même si le noyau z est faible, conduit très vite à un mu réaliste. Et par ailleurs, la corrélation de Zumbach, la corrélation R carré sigma, je ne vous l'ai pas montré ici, mais on peut reproduire aussi quantitativement l'amplitude de cette corrélation qui viole la symétrie T donne moins T. Alors, ceci dit, même si on a l'impression d'avoir un modèle qui a beaucoup de qualités, la formule que j'ai écrite ici, et que je n'ai pas détaillée, je n'ai pas du tout détaillé le calcul, la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que cette formule donne mu comme une fonction du rapport des échelles de temps des deux noyaux, oméga et bêta, de l'amplitude, enfin de la norme du noyau de Hawkes et de la norme du noyau Z de Zumbach. Et donc clairement, sur cette formule, on voit que la valeur de mu est non universelle, elle dépend des paramètres du modèle. Donc c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il a des tas de propriétés compatibles avec les données empiriques, mais il n'explique pas du tout pourquoi l'exposant de la loi de puissance serait universel. En fait, il conduit même à penser qu'il ne devrait pas l'être, puisque il n'y a aucune raison, ou alors il faudrait trouver une raison pour laquelle ces noyaux NH, NZ ont des valeurs. Les valeurs de NH et de NZ sont universelles, ou essayer de généraliser cette théorie pour s'éloigner de noyaux qui sont exponentiels et qui devraient être en loi de puissance. Mais en tout cas, cet exercice de calibration à nouveau est intéressant, mais ne résout pas la question majeure que j'essaye de poser depuis le début, et donc ça sera mon transparente conclusion. Je vous ai montré qu'une grande partie de l'activité des marchés était endogène et non exogène, qu'on est probablement proche d'une instabilité, que toutes ces observations suggèrent que le marché est hypersensible à des petites fluctuations, il s'emballe tout seul. Si on calibre des noyaux, des modèles tels Hawkes, on observe effectivement que pour calibrer les marchés, on a besoin d'être proche d'un point critique. On observe des lois de puissance dans tous les sens qui font penser à des points critiques en matière condensée, phénomène de mémoire longue, d'universalité. Et comme je viens de le montrer, le modèle précédent ne répond pas à cette question d'universalité. Je vous ai montré que la phénoménologie des marchés, en tout cas le versant univarié, c'est-à-dire que je ne vous ai parlé que d'une seule série financière à la fois, est extrêmement complexe, extrêmement subtile, et elle a inspiré depuis Bachelier et le mouvement brownien de nombreux développements mathématiques qui sont parfois extrêmement actuels, comme par exemple le mouvement brownien fractionnaire à H égale 0 qui relie à des tas de problèmes de mathématiques très actuels. Bien sûr, je n'ai pas du tout parlé de la généralisation multivariée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde non pas un seul actif à la fois, mais plusieurs actifs qui évoluent de façon contemporaine. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, on découvre un très grand nombre de faits stylisés supplémentaires qui concernent les corrélations linéaires, les corrélations non linéaires, la probabilité que deux actifs sautent en même temps, etc., que j'ai totalement passé sous silence, mais qui mériterait un cours à part entière. Et donc, pour moi, la question que toutes ces observations se posent, avec donc non seulement des volatilités en excès dans les marchés financiers, mais aussi dans le PIB des grandes économies, et qui ressemble beaucoup à de nombreux problèmes de physique de la matière complexe, donc les écoulements turbulents. Ici, je vous montre un exemple différent qui est le bruit Barkhausen, le bruit qu'un aimant émet lorsqu'il se magnétise. Tous ces exemples où, en fait, la perturbation extérieure est lente et régulière, mais la dynamique émergente est complexe et intermittente. Et donc, comment justifier les bons modèles dont je vous ai parlé, ce modèle de multifractal, ce modèle de Hawkes, etc., à partir de comportements d'agents qui se synchronisent ou qui interagissent et qui font peut-être que le système est proche d'un point critique. Voilà, je voudrais m'arrêter en vous signalant donc les références qui sous-tendent ce cours et qui seront donc sur la page d'accueil du cours, et puis le séminaire de Jim Gatherall qui sera projeté ici dans un quart d'heure si vous le souhaitez, ou que vous pouvez regarder plus tard de chez vous. Voilà.